connaissez la destination, vous savez pas vraiment le chemin.
C'est bien de croiser les, ouais, savoir-faire pour le coup. Autre question, quel défi cela a été de réaliser la musique du prochain Coppola avec Elvis en toile de fond? Est-ce qu'on compose de la même façon pour un film que pour son propre album, pour son propre groupe?
Sur ce film en particulier, on a plus un rôle de curation, je vais dire. On a choisi des morceaux plus qu'on les a composés. Il y a quelques moments de, on a dû s'y coller, mais on a beaucoup écouté de musique et cherché des combinaisons intéressantes. Donc c'était un travail assez long, mais très enrichissant, parce qu'on a écouté j'ai écouté des milliers de morceaux de l'époque. Même je me suis plongé dans les racines de ce qu'écoutait Elvis. Et puis c'est quand même un film sur Priscilla. Donc il fallait aussi adopter ce point de vue-là. Et puis cette tension entre des destinées incroyables, mais des personnages très différents. Donc c'était une belle expérience. On n'a pas fini, on y travaille encore, parce qu'il y a, un très grand perfectionnisme de la part de la réalisatrice.
Et de façon générale, alors je disais que vous prenez votre temps pour sortir des albums. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est vrai que c'est pas tous les ans.
Ouais.
Mais par contre, vous faites beaucoup de concerts. C'est un peu antinomique de beaucoup jouer et à la fois de prendre du temps pour sortir des nouveaux albums. Ou c'est vraiment votre mode de fonctionnement?
Bah, le problème, c'est que l'un empêche un peu l'autre, parce qu'on on écrit assez peu sur la route. On a besoin de changer d'état d'esprit. Mais et c'est deux vies complètement différentes. Il y a une vie de moine dans un studio où on va tous les jours. C'est une vie où on voit presque personne, où on est plongé dans un genre de solitude créatrice. Mais et puis après, on part sur les routes pendant des années, et c'est quand même un moment d'un peu de jubilation. Donc on fait durer un peu le plaisir, surtout qu'il y a toujours une destination qu'on connaît pas, il y a toujours une nouvelle aventure à vivre.
D'ailleurs, c'est assez fou, parce que vous faites des tournées, vous pouvez faire le Madison Square Garden plein comme un œuf, comme une toute petite salle dans le désert californien, je crois que j'ai noté Pioneer Town, et ce dans la même tournée. Pas un coup on fait les petites salles et un coup on fait les grands stades, c'est que dans la même tournée, pour inscrire ces deux dates-là. C'est quand même assez particulier.
C'est assez particulier, je crois que c'est même notre marque de fabrique. C'est pas volontaire, hein. Mais je sais que après tous les concerts les plus, où il y a eu le plus de monde, les grands festivals, on se retrouvait dans des toutes petites salles. Je sais qu'après le Hollywood Bowl, la salle d'après, c'était la Vapeur à Dijon. Et je pense qu'on est les seuls à avoir fait ça dans le monde. C'est des combinaisons qui n'existent pas. Et nous, ça nous intéresse de faire ça, d'être les seuls. Je sais que quand on joue au Mexique, en général, les Mexicains sont très forts pour le merchandising. Donc à l'extérieur des salles, il y a toujours des super t-shirts, il y a les dates de la tournée marquées au dos du. Et nous, on les achète juste parce que la tournée est sur la liste. On voit donc Los Angeles, Dijon, Stockholm. Et puis après, je sais pas, Manchester, Tennessee. Ouais. Voilà.
Deux dernières questions. Et d'ailleurs, Paul McCartney a fait comme vous.
Ouais, cette salle est assez mythique, parce que c'est dans une ville qui était construite pour être un décor de cinéma, qui a été abandonnée. Donc à l'heure d'Instagram et tout ça, il y a plein de gens qui y vont pour faire un maximum de photos et voir des concerts.
Donc deux dernières questions. Mythique, c'est la console, alors peut-être que là aussi je me trompe, de Thriller.
Ouais.
Que vous avez réussi à acquérir. Je voulais savoir comment elle va, est-ce que vous en servez encore, ou c'est l'objet et l'histoire de cette console qui vous a plu?
C'est drôle, parce qu'on est en train de replonger dans cette histoire, parce que là, elle est en train d'être rénovée. Elle est quand même assez vieille, mais elle est en très bon état. Et puis à l'occasion de ces travaux, on est allé revisiter l'histoire de cette console, comment on l'a trouvée, À l'époque, on avait filmé tout le processus, et là, on regarde les rushs de cette période. Et c'était une histoire assez drôle parce que c'est une console qui a été vendue à un musicien un peu fou qui faisait du rock chrétien et qui était franchement même plus qu'un peu fou, complètement en cinglé. Et il avait la console de Michael Jackson, mais personne ne le croyait en fait, c'est ça l'histoire de...
Ouais, c'est ça qui était le plus dur.
Et donc, le jour de la mort de Michael Jackson, en bon cinglé, il l'a mise en vente à 2 millions de dollars, je crois. Donc, avec un argumentaire de vente incroyable. J'ai retrouvé les emails. Franchement, on dirait tellement un arnaqueur. Que nous, notre génie, c'était de se dire un arnaqueur, il pourrait pas faire un truc aussi peu crédible. Il y a peut-être une chance qu'il l'ait vraiment. Et en fait, c'était ça l'histoire.
Il y a son Borsalino qui a été vendu aux enchères là. Mais le chapeau qui jette.
Je pense qu'on a payé la console moins cher que le Borsalino de Michael Jackson parce
oui.
que
il y a ça, c'est sûr.
On l'a eu quand même à un beau prix. On a eu une belle ristourne.
Oui, oui, oui. FM. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness, through an empty open door. Can't put back what's been broken, can't change the moment, we went too far. We're pulling apart for no reason. I was supposed to protect you, no matter what's to come. Somehow forgot when they told me we hurt the ones we love. Can't put back what's been broken, can't change the moment, we went too far. For no reason, we're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, we'll go into the black. What are we fighting for? What are we fighting? It's just friendly fire. Fire. Fire.
Oui FM, la radio du rock. Les bonnes histoires du rock avec Dom Kiris.
Il était une fois All Right Now par Free. Comme souvent dans les meilleurs titres rock, l'idée percutante de All Right Now est venue d'une manière très spontanée. À la suite d'un concert désastreux devant une poignée de Pékin défoncés au Mandrax, Free est sorti de scène désabusé. En 1968, leur blues rock déjà pas mal éculé ne retenait pas assez l'attention du public. Il leur fallait un titre plus rythmé et accrocheur pour finaliser leur show. C'est ainsi que le bassiste Andy Fraser raconte comment il a remonté le moral des troupes en chantant à tue-tête dans les coulisses « Tout va bien maintenant ». avec toute la fraîcheur d'un garçon de 20 ans. Il lui a fallu à peine 10 minutes pour structurer All Right Now. Dans l'euphorie, tout le groupe enthousiaste a mis son savoir-faire au service de cette chanson qui allait devenir le cheval de bataille de Free sur scène. Le chanteur Paul Rogers a pu donner de la voix sur l'histoire simple d'un gars qui drague une fille dans la rue pour la ramener chez lui. Tel un métronome, Simon Kirk assure un tempo régulier, sans fioriture autour de la ligne de basse souple. Et bien sûr, toute la place est laissée au riff fantastique de Paul Kossoff. Le guitariste a retenu la leçon d'Alexis Corner, le pape du blues anglais, qui leur a expliqué comment jouer avec les silences. Il faut qu'il soit bref, intense, comme si tu retenais ta respiration jusqu'à ce que les instruments explosent de nouveau. Un conseil retenu à la lettre pour le riff de All Right Now à mettre au panthéon de l'histoire du rock. Numéro 1 dans 20 pays, le 45 tour de Free va avoir une grande influence sur beaucoup de guitares héros, à commencer par Angus Young d'AC/DC, déjà en culotte courte pour apprendre les prémices d'un hard rock en gestation en 1970.
Oui FM. Oui FM. La radio du rock. De légende avec Don Kiris.
Monte le son pour la Vox Phantom 6 de Ian Curtis de Joy Division. Certes, Ian Curtis n'est pas reconnu comme guitariste. Il est entré dans la légende en tant que chanteur possédé à la voix caverneuse. Cependant, sa guitare Vox Phantom 6 spéciale de forme pentagonale fascine au-delà du mythe autour de Joy Division. Achetée en 1979 par le manager Rob Creighton, l'instrument particulier est utilisé sur la dernière tournée européenne. Ian Curtis en jouait surtout quand le guitariste Bernard Summer passait au synthétiseur. Fabriquée en 1967 par la marque britannique Vox comme une guitare aux allures rétro-futuristes, la Phantom, outre sa forme de luth médiévale inhabituelle, possède un trémolo de type Bixby, 3 micros, 6 boutons poussoirs intégrés et 5 commandes rotatives, autrement dit un engin hors norme que Bernard Summer décrit avec beaucoup de circonspection. Ian a vraiment aimé cette guitare, la Phantom a des tas d'effets intégrés, elle possède une pile, alors si vous faites une mauvaise manipulation, elle passe en mode auto-oscillante produisant cet étrange son de gazouillis que Ian a beaucoup aimé. C'est une guitare assez farfelue. Par la suite, Johnny Marr aura l'honneur de l'utiliser en fondant le groupe électronique avec Bernard Summer avant de la léguer en 2002 à Nathalie, la fille de Ian Curtis. À ce moment de sa vie, elle avait envie d'en savoir plus sur son défunt père. De ce qu'on m'a dit, mon père était obsédé par le style des choses. La Vox Phantom est donc cohérente et on sent vraiment que c'est la guitare de Ian Curtis. Vendue aux enchères en 2020 comme une relique à plus de 200 000 dollars, l'instrument iconique a fait sa première apparition en 30 ans lors d'une grande exposition à Manchester sur Factory Records, le label de Joy Division, influence majeure de la pop culture britannique. Enfin, pour la postérité, la Vox Phantom vient hanter le clip de Love Will Tear Us Apart, la chanson Mausolée, sortie un mois après le suicide de Ian Curtis le 18 mai 1980, dont le titre reste gravé en épitaphe sur la tombe du chanteur culte.
Retrouvez tous les épisodes de Guitare et guitariste de légende en podcast sur wifm.fr. Wifm. And I don't wanna believe that maybe this is the end. I know you're kind of a tease, but is this really pretend? Something tells me I'm wrong, but you I never can tell. The way you drag me along, the way I put you through hell. Tell me, am I insane? Is this where we belong? Is the pleasure or pain that we're still hanging on? Going out of my head, you know true love is dead, but what you said has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines, 10 feet and I'm going out of my mind. I'm not right without you, is that so wrong? I can't help but walk through your landmines, I'm bleeding and all I need is a sign. I'm out here and I've been waiting so long. Maybe I'm out of luck, or maybe all of it's bad. I'm not sure why we broke up, it was the best that I'd had. They say it's all for the best, I think the fate is a lie. And now my hair is a mess, and you're a little bit high. Should I give it a chance? Is it ever enough? No more blood on your hands, no more fucking it up. Going out of my head, all the tears that I've bled. And what you said has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines, 10 feet and I'm FM. Oui FM, la session acoustique.
Aujourd'hui, en ce vendredi 14 avril, on célèbre sur Oui FM la sortie du nouvel album de Temples Exotico. On va s'aventurer dans leur univers rock entre psychédélisme et pop vaporeuse. Le groupe britannique qui nous a enregistré un vrai voyage sonore, hein, captivant de précision et de maturité, voire même un peu de complexité malgré leur jeune âge. Ils sont passés nous voir il y a quelques jours dans les studios pour nous présenter donc ce quatrième album. Et au micro, c'est Tom Wamsley et Adam Smith, bassiste et guitariste de la formation, qui nous en parlent.
La complexité de ce que tu entends, je pense qu'en fait, c'est pas quelque chose qui a été réfléchi à l'avance, c'est quelque chose qui s'est passé en studio, parce qu'on était dans le studio de Sean, où effectivement, on dirait vraiment une caverne au trésor, il y a des instruments absolument partout. Et c'est vrai qu'en tant que musicien, quand on voit des instruments comme ça qu'on n'a jamais vu, sur lesquels on n'a jamais joué, on ne peut pas s'empêcher que de les prendre et de commencer à expérimenter un peu avec. Donc je crois que cette impression, elle vient surtout de là-bas. Et ça s'entend sur tous les titres du disque, mais c'est pas quelque chose, on s'est pas assis en se disant bon, on va faire un truc plus complexe que d'habitude.
Et c'est vrai qu'à l'écoute de ce disque aussi, j'ai trouvé que cet album était assez apaisant. Bon, je sais pas trop s'ils suivent un petit peu ce qui se passe en France en ce moment, mais ça fait du bien d'écouter ce genre de son. Quand on l'écoute aussi ce disque, on a l'impression qu'on a une sorte de voyage, hein, qui est construite. Ils en parlent aussi dans le dossier de presse. Est-ce que c'était ça vraiment l'idée de départ aussi de nous emmener quelque part un but précis avec ce disque?
C'est vrai que le thème du voyage sonore, c'est un thème récurrent et on a surtout essayé de l'exprimer avec les interludes entre les titres, par exemple Sultria, Head in the Clouds. Et effectivement, l'idée, on s'est dit plus que jamais, ce serait de faire d'enregistrer un album qui serait un voyage, l'auditeur ferait l'expérience d'un voyage. Ça peut faire un peu cliché. On s'est aussi dit qu'Exotico, ce serait une espèce d'île. Et chaque titre serait un endroit qui se trouve sur cette île. Donc c'était semi-intentionnel, on va dire, mais on voulait surtout pas faire un album concept.
Et surtout un album aussi qui est relativement donc complet, puisqu'il y a des interludes, 16 morceaux au total. C'est quand même une belle prise de risque aujourd'hui de sortir un album aussi vaste, surtout quand on sait que la façon de consommer la musique a beaucoup évolué. Maintenant, les artistes vont sortir des fois des EP, juste des titres. Vous êtes parti complètement à l'opposé de ce truc-là. C'était complètement voulu, intentionnel, Exotico, il avait besoin de prendre autant de place finalement.
Alors c'est vrai qu'on a pris cette décision quand il fallait, on était à la fin du mastering, il fallait décider de l'ordre des titres. Et ce qu'on fait généralement avec les autres disques, c'est qu'on définit 10 ou 12 qu'on garde. Et là, je sais que moi je me le suis dit personnellement, mais les autres aussi, on s'est dit mais pourquoi on ferait ça en fait? On a plein de titres qui sont bien dans des styles très variés, pourquoi on ferait pas des interludes pour les connecter entre eux et pourquoi pas absolument tout garder, notamment parce que nous en tant que groupe on n'avait jamais fait ça, on n'a jamais eu cette approche là on avait toujours sur nos disques précédents vraiment mis en avant les singles et peut-être au détriment du reste. Donc là on s'est dit surtout qu'à notre époque il y a de plus en plus de titres, la musique est de plus en plus courte, donc pourquoi pas faire une expérience d'une heure complètement immersive dans laquelle on se plonge.
Et c'était un pari plutôt réussi, en plus avec donc plein de morceaux variés et des morceaux, c'est vrai qu'on aime un petit peu plus que les autres sur Oui FM. Il y a notamment votre titre Gamma Rays qui était le premier qu'on a diffusé et que vous allez nous jouer en plus en session. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce titre? C'est comment il est né ce morceau? C'est quoi son histoire?
Well, James wrote that one really. We had stuff to do with it, but.
Alors c'est difficile de répondre parce que c'est vrai que c'est une chanson qui a été principalement écrite par James. Et nous, on y a contribué un petit peu. Je crois que c'est une chanson qui date d'il y a assez longtemps, surtout le riff de guitare. Après, on peut vous dire que les paroles, du moins, ça vient de cette idée que la nature peut être un bienfait pour nous, mais aussi quelque chose de très dangereux. Par exemple, on va au soleil, mais ça peut aussi nous faire beaucoup de mal, et accepter que la nature a un pouvoir qui est plus grand que celui que nous, on a.
Un beau message et une très belle chanson qu'on va écouter tout de suite sur Oui FM en session live, le groupe Temples avec Gamma Rays. Thank you.
feeling of tonight. Nah, nah, soaking up the rain.
Sur WeFM avec le titre Gamma Rays, morceau extrait de Exotico, leur nouvel album disponible depuis ce matin dans tous les points de vente habituels. Nous avons Tom et Adam, bassiste et guitariste de la formation, en interview. On continue justement d'en savoir un petit peu plus autour de ce nouvel album. Est-ce qu'on peut dire que finalement cet album il a un peu une dimension un peu écolo? C'est vrai qu'on en parle beaucoup hein, de l'écologie. Il y a beaucoup de musiciens qui intègrent des messages dans leur musique. Est-ce que pour vous c'est un petit peu ça aussi, au-delà du côté poétique de votre disque Exotico? Est-ce qu'il y a un petit peu d'engagement écologiste derrière ça?
C'est vrai que c'est un sujet qui nous a toujours tenu à cœur et ça s'est exprimé sur des disques précédents. C'est un peu ce paradoxe entre la nature qui crée et qui détruit en même temps. Mais je dirais que c'est pas quelque chose qui transparaît sur ce disque, du moins pas sur tous les titres. C'est plus ou moins présent dans les paroles, mais on s'est pas dit on va s'asseoir, on va faire un disque à ce sujet. Absolument pas du tout. C'est vrai que Liquid Air et Gamma Ray ont ce genre d'idée, et peut-être qu'au fond on est beaucoup plus écologiste qu'on ne le pense.
Et c'est pas mauvais dans un sens, on va pas leur reprocher. Alors pour ce disque, vous en parliez tout à l'heure, vous parliez d'un certain Sean à la production. C'est évidemment Sean Ono Lennon avec qui vous avez déjà travaillé, si je ne me trompe pas. Pourquoi finalement avoir eu envie de collaborer avec lui, et au-delà du fait qu'il avait plein d'instruments dans son studio, comment ça s'est passé l'enregistrement avec Sean?
We met him at Desert Days Festival, didn't we, out on the west coast of America.
Donc en fait, on l'a rencontré au festival Desert Days qui se tient en Californie. Je me rappelle plus où ça se situe exactement. Et on a passé quelques jours juste dans la compagnie l'un de l'autre et on a discuté les uns les autres. Et je crois que déjà à l'époque, on s'est dit qu'on allait travailler sur quelque chose ensemble. Et je sais pas si tu sais, mais des fois, on rencontre des gens et juste à un niveau créatif, on sent que ça match, on sent qu'on comprend où on veut en venir. Et on a commencé donc à travailler ensemble sur Paraphernalia, et c'est vrai que le monde, à cause du Covid, le monde a arrêté, tout s'est arrêté, et on en a eu pour 1 à 2 ans pour compléter cet album. Et pour ce qui est du temps qu'on a passé ensemble en studio, c'était absolument magique, en dehors de tous les instruments qu'il avait, notamment parce que c'est vraiment un gars super marrant. Il a un sens de l'humour incroyable, très très british, et on dit pour rigoler que c'est le plus britannique des Américains qu'on a jamais rencontré.
Bon, en tout cas, on espère peut-être l'avoir en interview un jour sur WeFM, hein, Sean O'Nolenon, tu es le bienvenu. Alors sur ce disque, en plus donc d'avoir la participation d'un producteur de cette carrure, on va retrouver pas mal d'orchestration sur les morceaux, des instruments à cordes notamment. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le rock, notamment dans les morceaux des Beatles et Beach Boys, et qui revient un petit peu à la mode, j'ai l'impression. On a pu les entendre dans le dernier album d'Arctic Monkeys, sur le nouveau titre de Noel Gallagher. C'est important pour eux justement, voilà, d'apporter cette touche à l'album, de rapporter toute cette orchestration, toute cette effervescence.
Alors, c'est vrai que notre premier album avait déjà des arrangements de cordes, mais c'était pas des vraies cordes, c'était des enregistrements mellotron, donc il y avait pas de personne avec nous qui jouait des instruments à cordes. Donc on peut dire que c'est vraiment la première fois avec ce disque qu'on a utilisé ces arrangements. Ce sont des gens que Sean connaissait d'ailleurs, qui sont venus collaborer avec nous sur ce disque. Mais à titre personnel, on a toujours beaucoup apprécié l'utilisation de ces instruments qui viennent d'orchestres traditionnels. Ça donne une dimension vraiment cinématographique au son. Et je pense que pour nous, c'était important, en dehors de tous les instruments qu'il y avait dans le studio de Sean, de mettre des cordes pour vraiment insuffler une vie nouvelle aux mélodies qu'on avait.
Alors, parmi les autres morceaux qu'on a adoré en tout cas sur cet album, et puis que vous allez aussi nous jouer, puisqu'on en profite que vous êtes avec vos instruments dans le studio, il y a le titre Afterlife. Alors quand on écoute un petit peu les paroles, on a un petit peu la sensation d'isolement, de relation à distance. Est-ce qu'on peut dire que ce titre, c'est un titre du confinement? On le valide complètement, cette description?
Oui, absolument. Je vois ce titre comme une conversation entre deux personnes qui sont effectivement à une grande distance l'un de l'autre. Et pour moi, ça semblait un bon titre à mettre vers la fin du disque pour dire que la vie continue, et même dans la vie après la mort, il y a une forme de continuité. Donc dans ce sens, même après le confinement, ça continue.
Temples en session live sur WeFM. Ils viennent de nous en parler, hein, de ce titre Afterlife. On écoute tout de suite leur version acoustique. Yeah. live sur Oui FM avec le groupe britannique Temples qui est dans les studios pour nous présenter leur nouvel album Exotico dans les bacs depuis ce matin. Un album qu'on apprécie en vous faire découvrir et puis partager aussi l'univers de ces jeunes musiciens. La suite de notre interview et surtout, qui dit session acoustique sur Oui FM dit reprise. Aujourd'hui, vous allez nous jouer du Velvet Underground et leur cultissime Sunday Morning. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour vous, pour le groupe? Qui a choisi cette cover?
James mentioned it, I think he wanted to do it.
Alors, c'était peut-être James, je ne sais pas. En tout cas, c'est une chanson qu'on connaît tous depuis longtemps et qui fait un peu partie de notre environnement depuis un moment. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore joué en live comme ça. Ça, c'est vraiment la toute première fois. Et en fait, pour nous, ce qu'elle évoque cette chanson, c'est que c'est vraiment, on entend, c'est vraiment le son d'un samedi, d'un dimanche matin, pardon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette ambiance de dimanche matin. Moi, personnellement, d'ailleurs, le dimanche, c'est mon jour préféré de la semaine, même si je pense pas que c'était le cas pour Laurie. Je crois que c'était plutôt, il avait trop fait la fête la veille. Et pour lui, le dimanche, c'était horrible. Mais moi, personnellement, j'adore cette chanson et j'adore.
On va juste finir cette interview avec une petite question habituelle, à savoir, votre actu, est-ce que vous avez prévu, notamment, une tournée française? Est-ce qu'il y a des dates qui vont bientôt être annoncés pour les auditeurs de Oui FM pour qu'ils puissent vous voir sur scène?
No, I mean we'll certainly be back later in the year to do our own tour here.
C'est pas ce qu'on a le droit. On sait pas vraiment ce qu'on a le droit d'annoncer en fait pour l'instant. On sait qu'on va revenir en tournée plus tard cette année et qu'on va faire au moins 2 festivals en France.
Merci beaucoup Temples d'être passé nous voir dans les studios. Merci pour cette session et puis maintenant vous avez l'adresse de la radio donc vous revenez quand vous voulez. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Et comme promis, on finit cette interview avec la reprise de Sunday Morning du Velvet Underground, interprétée en session live par le groupe Temples sur Oui FM.
radio du rock. Histoire du rock avec Dom Kiris.
Il était une fois Jolene par The White Stripes. En épinglant Jolene au répertoire de The White Stripes, Jack White a pu exprimer son amour pour la country music et en particulier pour Dolly Parton qui a vécu comme lui à Détroit. Alors qu'il faisait ses débuts modestes dans les petits clubs de la ville à la fin des 90s, le duo bicolore en donnait déjà une version bouleversante aussi intime que frénétique. Les tambours tribaux de Mick White en soutien à la guitare lacérée de Jack créent une complicité parfaite pour faire revivre ce morceau d'histoire de l'Amérique authentique. Mais savez-vous que Jolene est un prénom d'origine française? Ça vient de Jolie que Dolly Parton a trouvé judicieux de donner à une employée de banque que son mari fréquentait un peu trop assidûment. C'était une blague entre eux, mais il y a un tel fond de vérité et de sincérité dans les paroles que Jolene est devenue un classique de la musique américaine en 1973. En pleine inspiration, la reine de la country l'aurait écrite le même jour que I Will Always Love You, mondialement connue grâce à la reprise musclée de Whitney Houston. La version originale de Jolene est enregistrée d'une manière minimaliste sur un picking de guitare de Chip Young, l'un des grands musiciens de studio de Nashville. Triste à en pleurer, la chanteuse supplie la belle femme rousse de laisser son homme tranquille. Tout en respectant le propos du point de vue féminin, Jack White chante à la première personne d'une manière douloureuse, à l'inverse de l'image de poupée Barbie surgonflée de l'idole américaine. Méconnue en France, on écoute donc la méga star Dolly Parton sans le savoir grâce à la version country garage de Jolene de The White Stripes qui met tout dans le rouge.
Oui, oui FM. Oui FM.
Yeah. La session acoustique.
Aujourd'hui sur Oui FM, on reçoit l'un de nos plus gros coups de cœur du moment et autant dire qu'ils ont fait pas mal de kilomètres puisqu'ils nous viennent de Perth en Australie. C'est The Fame qui sont dans les studios. Ils sont tous là au rang complet. On va voir Josh au chant, on a Sam à la guitare, Stéphane basse et clavier aujourd'hui et Lyndon à la batterie. Salut, comment ça va?
Very well, thanks.
Ça va bien.
Ils sont ravis d'être là aussi. Alors, on vous a découvert en 2019 avec un premier album intitulé State of Mind, sur lequel on a pu découvrir des morceaux qui sont aujourd'hui cultes pour notre playlist Oui FM. On a Summer is a Curse et Human, des titres qui ont fait un énorme carton. Vous avez décroché des millions de streams. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez vu que ces morceaux fonctionnaient à ce point, en fait, qu'il y avait autant de gens qui les écoutaient?
I guess the first thing is that it's very unexpected. None of us really expected.
Oui, déjà, ils s'y attendent pas, forcément.
To blow up in the way that it did, but very thankful.
Très reconnaissant parce que du coup le succès de ces chansons leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui, de voyager à travers le monde comme il dit.
And it also kind of like it makes us feel very thankful to be here, but also it sets the precedent for what we want to do moving forward.
Donc ouais, donc vraiment ce sentiment de reconnaissance, notamment parce que du coup à cause du succès précédent, ils ont vraiment envie de se donner et de placer la barre assez haute pour ce qui va venir après, de rester authentique et que ça leur ressemble vraiment, que ça parle de leur cœur. Et voilà, et donc encore une fois reconnaissant de pouvoir en être là aujourd'hui et de faire ce genre de travail. Et
justement, je posais la question, ça doit être un peu flippant finalement pour la suite quand on a autant de succès d'attaquer l'album d'après. Vous avez eu un petit peu cette appréhension avant d'enregistrer ce nouvel album qui arrive?
I think the main emotion we're feeling for this album is just excitement. Like we have been working on this for the last 2 years during the pandemic.
Ouais, le mot principal qui leur vient à l'esprit, c'est l'excitation. Ouais, d'être là. Ils ont bossé 2 ans sur cet album pendant la pandémie. Il y avait beaucoup d'incertitudes justement ces 2 dernières années, surtout dans le monde de la musique. Donc de pouvoir être là, de pouvoir être en France aujourd'hui pour défendre ce nouvel album, c'est voilà, déjà ils sont extrêmement reconnaissants et super excités à l'idée de le faire.
Justement, je vous propose de faire un premier titre en acoustique et on pouvait pas ne pas vous demander Summer is a Curse. On le fait, on le joue.
Very excited.
Oui. Ton archi prêt.
Yeah, oui, yeah.
windows. I can't see what the future holds, but I wanna know. I tiptoe on the dirt road, too hot for the devil. I can't see what the future holds, but I wanna know. It's like hearts don't bleed like mine. All we need is time. The summer is a curse and I can't let go. If you never try, then you never know. Broke city with a broken heart. Summer is a curse and we fall apart. Dark days and a deeper cold. If you never try, then you never know. Let me fall apart. We fall apart. Sea breeze, you convince me, yeah. I don't need this city. I could leave in a heartbeat. And you gotta know, yeah, you gotta know. Oh, and I can't let go. If you never try, then you never know. Broke city with a broken heart. We fall apart. Summer is a curse and I can't let go. If you never try, then you never know. Broke city with a broken heart. Summer is a curse and we fall apart. Dark days and a deeper cold. If you never try, then you never know.
Session live sur WeFM avec une très belle version de Summer is a Curse, tout premier single qu'on vous avait diffusé sur WeFM, et on ne s'en lasse pas de ce titre. Alors on est là pour parler de votre nouvel album qui a été confirmé pour cet été, un deuxième album qui s'appelle Tol Talk. Il sera dans les bacs le 8 juillet. Tu le disais tout à l'heure, c'est un disque que vous avez composé sur deux ans, qui a été enregistré pendant la pandémie. Est-ce qu'on peut revenir justement sur tout ce processus? Quand est-ce que vous êtes rentré en studio? Et dans quel état d'esprit vous étiez en arrivant en studio?
It was quite a long process actually because
c'était assez long déjà.
At the beginning of the process we were all in
et tous en Australie du coup à Perth de là où ils viennent.
And after the first album, you know, we wanted to change a few things and just figure everything out on our own.
On voulait changer quelques petites choses après le premier album et puis voilà, prendre un peu le temps chacun de leur côté aussi.
So that's the way it started and there was a lot of trial and error. You know, we were experimenting with things, and as time went on, we all sort of moved.
Après voilà, ils sont tous un petit peu éparpillés à travers le monde. Steven est parti habiter à Los Angeles.
I moved to Melbourne in Australia.
Lui à Melbourne.
And Josh and Lyndon stayed in Perth.
Et Josh et Lyndon sont restés à Perth.
And so that was, you know, we had to figure out basically how to write over the internet and.
Oui, donc voilà, ils ont dû, comment travailler et écrire ensemble à travers l'internet. Quoi.
Ouais, bah, ouais, à distance quoi. Ok.
And then a bit later on, Josh went to LA too to be with Steven and. Yeah, basically at that point in time we were finishing.
Josh a rejoint donc Steven à Los Angeles. À ce moment-là, ils avaient quasiment fini l'album.
It was a very interesting writing experience for the album because we weren't in one spot for the whole album doing it all together. It was,
oui, c'était assez intéressant parce que du coup, ils n'étaient pas tous au même endroit à écrire l'album, ils étaient tous éparpillés et ils ont fait ça chacun de leur côté quoi.
So yeah, hopefully everybody likes the album and hope it turned out well, I don't know.
Du coup, ils espèrent que le résultat sera bon et que ça plaira.
Eh ben, au vu des premiers singles, moi je n'ai pas trop de doutes. Alors c'est vrai que sur cet album, on a pu découvrir donc un premier extrait qui s'appelle The Hills. Est-ce que vous pouvez me parler de ce morceau?
That song was written in Perth.
Elle a été écrite à Perth et à Melbourne.
Okay. The idea sort of came around with Sam.
En fait, c'est un peu des souvenirs d'enfance de Sam et Josh qui ont discuté au téléphone des choses qu'ils avaient pu faire, vivre lorsqu'ils étaient plus jeunes.
We realized that very quickly that we.
En fait, ils se sont rendus compte que c'est des choses auxquelles on est attaché, qui sont importantes pour nous. Et du coup, ils se sont dit, on va écrire une chanson qui parle de ça, de nos souvenirs, des endroits où on a grandi, des choses qu'on a pu vivre lorsqu'on était jeunes.
And then as we started diving in more and more, we realized it's not just about like specific like one thing. Home in general is just a feeling. You can carry that wherever you go, whether it's.
Ouais, du coup, ils se sont rendus compte que The Hill, c'est pas juste un endroit en particulier. C'est vraiment toute une série de choses. Ça peut être la couleur d'un arbre qui vous rappelle quelque chose, ou une émotion, ou un endroit, ou quelqu'un. Voilà. Et donc, en fait, la chanson, c'est vraiment, elle représente ça.
D'accord. On est vraiment plongé dans leurs souvenirs, et c'est peut-être pour ça aussi que ce morceau il fait voyager. Je vous propose de le découvrir, ou en tout cas de le savourer en version acoustique aujourd'hui sur Wii FM. The Fame en session live.
Everyone I know is a stranger now.